Bonjour à tous, Mémoire d'Amberg en CFM, un programme en partenariat avec l'association Les Embringues, quartier d'art et d'histoire. Et cette mission, je vous le rappelle, eh bien, permet à nos anciens, notamment de la rue de l'Amberg, hein, en plein cœur de Rodez, de revenir sur leurs souvenirs des années 30, des années 40, des années 50, des années 60, des années 70, quasiment jusqu'à aujourd'hui. On va encore développer plusieurs sujets dans cette émission et dans ce rendez-vous. On va saluer eh bien, les Ruthénois, les Aveyronnais qui sont avec nous aujourd'hui autour de la table. Je dis ça, ou ex-Aveyronnais, hein, Georgette.
Bonjour.
Alors vous avez, on va rappeler pour ceux qui n'étaient pas là lors des précédents épisodes, la rue de l'Amberg, pour vous c'était quand, c'était quoi?
Ben, la rue de l'Amberg, déjà je suis arrivée dans la rue de l'Amberg en 47, donc on habitait au 46 de la rue de l'Amberg, dans une tour des fortes. Je ne sais pas si c'était des fortifications, mais c'était une tour, je me souviens. C'était monstrueux, cette tour, avec un escalier en colimaçon. Chaque fois qu'il y avait du vent, ce vent s'engouffrait dans les escaliers. Il y avait toujours des pierres qui dégringolaient des murailles. C'était impressionnant. Donc, ma jeunesse a été le 46 rue de l'Amberg. Et après, ben, nous avons terminé l'impasse Vezin, qui est toujours au milieu de la rue de l'Amberg.
Terminé, c'était dans les quelles années?
L'impasse Vezin, c'était dans les années 50. 50
Plus 60.
Plus 60.
Voilà, et celui que vous entendez derrière, qui aide un petit peu Georgette, bah, c'est son frère.
Voilà.
C'est Christian Vie qui est de nouveau avec nous aujourd'hui. Donc Christian, on est d'accord sur le parcours de la famille, vous avez tout fait ensemble?
Oui, c'est-à-dire, là au 46 rue de l'Amberg, on avait deux pièces. Pas de toilette et pas d'eau courante. On allait chercher l'eau à la fontaine dans la rue de l'Amberg.
Ça ne veut pas être toujours marrant l'hiver?
Ah ben non, était habitué, mais on le faisait.
Hein, c'était jamais marrant.
On va en parler d'ailleurs, on va en parler dans cette émission évidemment. On va dire bonjour à Solange. Solange, c'est notre aînée. Bonjour Solange.
Bonjour.
On va rappeler Solange que vous êtes née en
1924.
Et que vous avez...
Rue de l'Amberg.
Auquel numéro?
21.
Voilà, donc vous avez 90 ans.
Au deuxième étage.
Et on va revenir avec vous dans cette émission sur vos souvenirs de cette époque.
Ah ouais.
Dans Mémoire d'Amberg, aujourd'hui, on va aborder l'hiver, puisqu'on est en plein hiver. On va aborder l'école, puisque bah, c'est votre enfance. Et puis on en parle pas mal d'école en ce moment, suite aux terribles événements qui ont eu lieu à Paris. Et l'éducation de nos enfants est en question. On verra quelle était la vôtre ici à Rodez il y a quelques décennies, hein, Solange. Vous avez gardé un bon souvenir, vous, de l'école, l'école primaire?
Oh, très bon souvenir.
Peut-être
de l'école maternelle à la terminale, j'ai que des bons souvenirs.
Ah, bah,
on oublie les mauvais.
Ça doit être ça. Vous êtes d'accord, Solange? Bonjour, notre deuxième Solange dans cette émission, Solange Verdu. Bonjour, Solange.
Bonjour.
Vous, oui, c'était après.
C'était quelques années après.
Quelques années après. Hein.
Oui, et c'était au 8 rue de Bonal
que
je suis née en avril 1931. Donc, voyez, moi, je suis du printemps. Voilà. Oui, ben, je suis allée aussi à l'école maternelle, dans le quartier, et puis dans le quartier un peu excentré, à l'école Galli.
Et alors vous, l'école comme ça, d'une façon générale, vous en avez gardé, c'était
un bon souvenir. Bon, j'étais dans les élèves qui étaient un peu studieux, mais qui étaient très bavards. Et pourtant, plus tard, je ne l'étais plus bavarde, mais je le suis redevenue.
Allez, on va débuter dans cette émission. Je vais commencer par vous adresser tous mes vœux. Hein. On est au mois de janvier, donc profitons-en. On a jusqu'au 31 pour s'adresser les vœux. Je vous souhaite à tous, bien sûr, une bonne année 2015. Bonne santé, évidemment. Et d'ailleurs, qu'est-ce que les uns les autres, on va commencer avec Georgette. Vous, vos vœux, Georgette, pour cette année 2015?
Bah, d'avoir la santé, de continuer sur la lancée sans problème.
Hein. Ça a l'air d'aller.
Il faut que ça continue, quoi.
Solange?
Moi, même chose. Hein,
oui.
Rester en bonne santé.
Pour vous, Christian,
pouvoir
vous disiez...
être indépendante.
Ah ouais, j'imagine que c'est important.
Tout en étant en maison de retraite, de pouvoir sortir, rentrer quand je veux, etc.
Vous êtes en maison de retraite, mais vous êtes venue de vous-même dans nos studios à la radio.
Toute seule,
malgré
seule,
le froid. Aujourd'hui, Christian, la santé, ça va?
Eh bien, ça peut aller, que ça continue comme ça 50 ans et ça ira.
Et Solange, vous, qu'est-ce que vous souhaitez ou qu'est-ce que vous attendiez de cette année 2015, Solange Verdu?
Eh bien, j'attends de cette année qu'elle soit plus calme que les années précédentes, au point de vue social, au point de vue relation entre les personnes, plus d'écoute les uns des autres et de tolérance. Et puis, au point de vue météo, qu'elle nous soit plus favorable que ce qu'a été 2014 aux Ruthénois et tout ce qui nous entoure.
Bonjour, Anne Pigeon-Tabary. Vous êtes, je rappelle, membre de l'association Les Embringues, quartier d'art et d'amitié. Et c'est vous, hein, qui êtes à l'initiative de cette émission et de ce rendez-vous avec ces anciens et ces habitants de la rue de Lambergue notamment. On va rappeler déjà, parce que vous aussi, je vous demandais vos vœux pour 2015, mais c'est plus qu'un vœu, il y a un projet sur cette année 2015.
Exactement. Moi, je suis très fière d'avoir contacté les anciens, même s'ils ne sont pas réguliers pour cause de santé ou pour cause de lassitude. Je comprends. Mais qu'importe, on a réuni tous maintenant beaucoup, beaucoup de souvenirs, de flashs, de scènes, de rues. Et je voudrais bien proposer à mes amis les aînés qu'on travaille, on passe un cap et on aille vers une présentation de tout ce que nous avons réuni, que ce soit sonore, que ce soit photographique et d'autres témoignages, des journaux d'époque, des choses comme ça. Et il me semble qu'il est temps de se diriger vers une présentation, pas dire une exposition, c'est un bien grand mot, mais de faire partager à ceux qui veulent, à la ville, à la mairie, que la rue de Bonald et la rue de Lambergue, c'est le cœur de la cité depuis le Moyen-Âge et même avant le Moyen-Âge, et qu'elle a toute une vie, et que la vie continue, et que les anciens ont créé cette vie, et que voilà, on tient à témoigner ça. Alors, et je pense qu'on va un petit peu, je vais proposer à mes amis d'aller vers un travail de construction ensemble, une exposition.
Parce que des documents, vous en avez...
Maintenant, j'en ai pas mal.
Mais... pas mal, hein. Il y en a des photos, là, vous, juste avant qu'on débute l'émission, vous montriez les uns les autres les différentes photos. On va en parler dans cette émission, parce que, notamment, Solange Verdu, là, qui est avec nous, vous avez entendu, j'ai découvert sur une photo que Solange était une basketteuse.
Alors, et oui, mais ça date de longtemps.
Ah bah oui, mais écoute, vous aviez l'air au point, parce que c'est une photo en pleine action, vous êtes en l'air en train d'inscrire un panier.
Et oui, ça se passait dans la cour de l'EPS. Autrement dit, l'école primaire supérieure qui se trouvait mitoyenne. Enfin, c'était le même bâtiment dans lequel maintenant ce sont les élèves du lycée Fabre.
Moi, la surprise, ça n'a pas été de vous voir spécialement faire du sport. Mais c'est quand même cette discipline, le basket. Là, on est en quelle année dans la photo que vous me montriez tout à l'heure?
C'était dans les années 45 quand même. Vous savez, nous avions les études, mais quand même, il y avait une partie de sport, notamment, à l'école, j'ai fait du basket, et puis pendant un ou deux ans, peut-être, un peu de tennis. D'ailleurs, j'ai d'autres souvenirs, là, de ce terrain de tennis qui donnait sur le boulevard Belle-Île.
Derrière.
Solange.
Oui, alors, je l'ai précédé dans tout ça.
Ben oui.
Et justement, moi, j'étais au départ, de la première équipe de basket féminine.
Ah, moi aussi
De scolaire.
Ça n'existait pas dans les écoles.
Scolaire. Et puis, à partir du moment où on a eu des professeurs d'éducation physique réguliers, on a vraiment fait de l'éducation physique et du sport à Fabre.
Mais alors, le basket, je suis étonné. Moi, je pensais plutôt, et alors Christian, Georgette, j'imaginais plutôt que dans les années 40, 50 ou même avant, les sports, c'était la gymnastique, les exercices physiques, le basket, je savais même pas que ça existait en France.
Dans quelle tenue vous
étiez? Tenue, un short, chemisette.
Chemisette. Et vous, alors Christian, qu'est-ce que vous faisiez comme sport?
Attendez, je voudrais continuer à ajouter que le tennis, il a été longtemps à l'abandon, justement, dans cette partie de Fabre. C'était avec des camarades qu'on avait contribué à le faire remettre en état pour pouvoir en profiter. Parce que il servait à rien, quoi. D'accord. Personne n'y allait, il mettait les pieds.
Et donc vous avez joué au basket et au tennis, alors Solange?
Vous on aussi. A fait un télé, mais le tennis, ça ne faisait pas de compétition. Hein.
Non,
c'était
pour
s'amuser, pour jouer entre nous.
Et Christian, qu'est-ce qu'il faisait comme sport à l'école?
On montait à la corde,
on
courait dans la cour.
Puis
le professeur d'éducation physique passait devant nous, il fallait le suivre. Hein. C'est pas comme maintenant. Hein.
Et tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de l'école et que vous parlez, c'est pas comme maintenant. On va parler de l'école et de l'évolution un peu des professeurs et puis de comment les enfants vivent l'école. Parce que l'actualité, vous avez peut-être suivi malheureusement ces dernières semaines, les attentats en région parisienne. Et depuis, on cherche à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle beaucoup de l'école. Les jeunes maintenant, ils seraient moins encadrés, moins tenus par les professeurs qu'avant. Ils feraient ce qu'ils voudraient. Est-ce que vous avez ce sentiment que effectivement les choses ont beaucoup changé au niveau de l'école et des professeurs? Entre votre époque et maintenant.
C'est-à-dire
que Georgette.
C'est-à-dire que moi, j'ai pas un bon exemple, parce que moi, j'étais dans l'école religieuse dans le quartier. C'était l'école de Saint-Vincent-de-Paul. Alors, les religieuses, c'était.
Discipline?
Ah oui. Sœur Marguerite et Sœur André, il fallait vraiment Oui, ça sort droit, hein. Terrible, hein.
Comment elle l'avait, cette autorité?
Ah, bah, c'était les punitions, c'était les sanctions, hein.
C'était quoi, les punitions?
C'était les punitions, c'était les études, c'était, on vous gardait après les heures, des fois, je restais des heures après l'école, et puis bon, quand j'entrais à la maison, ben, bah, j'avais même pas le temps de faire mes devoirs, parce que, à la maison, hein, il fallait se coucher de bonne heure, et c'était les sanctions, c'était, ouais, les punitions. Oui.
Alors, vous, Georgette, après, je vais demander à Solange, ah, oui, quelques années
les...
avant.
Ah oui, puis, moi, je me souviens, tirer les oreilles.
Ah ouais. Ah,
on des fois, les oreilles, ça se décollait un peu, hein. Et Solange, on vous cassait les ardoises sur la tête aussi.
Ah bah, dites donc.
Bah oui, oui, bah, oui, que maman, elle était pas contente. C'était pas tellement pour ma tête qu'elle avait peur, c'était pour les ardoises. Elle dit, j'en ai marre de payer des ardoises à ma fille. Oui, c'était pour ça, elle était venue à l'école une fois avec l'ardoise. Elle dit, oui, comme vous venez, j'en ai marre de payer des ardoises. C'était pas pour...
Alors oui, ça a complètement
c'est
changé.
C'est vrai, en plus, c'est vrai.
C'est incroyable. Parce que, donc vous, actuellement, les parents viennent se plaindre auprès des professeurs parce que leur enfant a eu une petite punition à l'école. Vous, vos parents, ils venaient voir la maîtresse parce que elle était pas, c'est pas qu'elle vous punisse qu'elle était pas contente, c'était que l'ardoise soit cassée dans l'affaire.
Non, puis, elles étaient terribles, les religieuses. Surtout à Sainte-Agnès, je crois encore, c'était terrible.
Vous en aviez peur?
Moi, elles m'impressionnaient, oui. Surtout celles de Sainte-Agnès parce qu'elles étaient habillées en noir.
Est-ce que après coup, vous vous dites qu'elles ont eu raison ou bien que non, quand même, c'est exagéré, quoi?
C'était exagéré, oui. Parce qu'il y avait des sanctions. Moi, je me souviens d'une gamine, la pauvre, bon, elle se lavait pas. Et je me souviens, je vois les religieuses mettre une grande bassine d'eau au milieu de la cour et la laver devant tout le monde, quoi. C'était horrible.
Solange, vous, quelques décennies plus tôt, ça se passait comment
Moi, je n'ai jamais eu d'impression qu'il y ait une forte discipline, aussi bien à l'école primaire que après au collège Fabre.
Vous n'avez jamais fait tirer
les sixièmes. Il y avait, j'ai l'impression, moi, qu'à cette époque-là, les enseignants, les surveillantes d'études posaient les conditions au départ et on respectait quoi les consignes, si vous voulez.
Et alors, pourquoi vous respectiez les consignes? Pourquoi vous étiez plus sage?
Non, mais quand on nous disait qu'il fallait faire que ça se passerait comme ci ou comme ça, on nous menaçait pas de sanctions. Je sais pas, je garde aucun souvenir de ces vérités. J'allais dire que ça a très bien coulé.
Ouais, Est-ce que vous vous souvenez vous avez des souvenirs d'enfants comme vous, turbulents ou de mauvais élèves, pas de voyous, mais enfin bon, qui posaient des problèmes à ses professeurs?
Mais nous, c'était pas mixte, hein, à l'époque. J'ai toujours été qu'avec des filles, hein. C'était très calme. Moi, j'ai pas de souvenirs, évidemment. De temps en temps, il pouvait y avoir, mais pas de, ça m'a pas laissé de gros souvenirs, quoi.
Et vos maîtresses, notamment à l'école primaire, vos parents vous disaient de les respecter particulièrement? On vous parlait de ça?
En plus, c'était un peu différent parce qu'on m'a mis à l'école annexe parce que mes parents connaissaient la directrice. Madame Salvan, elle s'appelait. Donc, il y avait aucun problème. Il faut dire qu'à l'époque, les classes n'étaient pas très nombreuses. Hein.
Vous étiez combien?
Entre les classes, je sais pas, quand on était autour de 20, 25, entre 20 et 25 élèves, c'était le maximum. Mmh. Alors qu'après, il y avait des classes de 40 élèves, et c'est certain que la discipline n'est plus la même.
Tiens, Solange Verdu, quelques années plus tard, vous, l'école, pour vous, c'était un lieu où il régnait une discipline stricte, où vous sentiez vraiment dans une structure très entourée, très encadrée, où il ne fallait pas dépasser ou pas du tout?
Non,
vous avez pas
je n'ai pas à me plaindre de ce que j'ai subi, ou d'autres élèves comme moi aient subi des punitions. Quand il s'agissait de l'école primaire, d'abord à l'entrée des classes le matin, nous avions l'appel de nos noms. Il fallait répondre au présent. Ensuite, on nous faisait montrer les mains pour savoir si nous les avions propres.
Ah, quand même.
Oui, oui.
Moi, j'ai pas.
Mais c'était tout. Après, évidemment, il fallait être sage. Il fallait, ne pas trop parler. Enfin, écouter l'institutrice. Mais bon, ça allait de soi. Nous avions bien sûr les récréations pour nous libérer un petit peu. Nous jouions à la corde, à la marelle, enfin, puis bon, c'est tout. J'ai parmi mes souvenirs la photo de la dernière distribution de prix.
Oui, même cette photo
que nous avions eue, c'était en juin 39. Et voilà, à l'époque, évidemment, il y avait une estrade au fond de, à l'école Galli. C'était l'école Galli, oui. Bon. Alors, il y avait une estrade devant le bâtiment. Et puis, les parents étaient invités. Il y avait la distribution des prix. Mais chaque enfant avait un prix. Oui. C'était des livres. Alors, évidemment, suivant les classes, bon, les livres étaient différents, puisqu'il y avait 4 classes à l'école primaire. Quand il s'est agi du secondaire, nous avions des professeurs qui nous faisaient être respectueux. Mais ça, ce n'était pas une contrainte, puisque déjà à la maison, enfin chez nous, chez mes parents, on nous avait appris à être sages, autant que possible, même si l'on était expiègle quelquefois. Mais nous étions sages et nous avions le respect des personnes. Voilà. L'instituteur, ou plus tard le professeur, était quelqu'un qu'on respectait bien, et qu'on écoutait. Évidemment, quelquefois, on avait des petites distractions pendant les cours, mais voilà. Je me souviens quand même, en secondaire, d'un professeur. Il s'agissait de notre professeur de maths. Il faut dire quand même que, moi, quand j'ai connu le secondaire, c'était dans les années de guerre, et qu'il y a eu des professeurs qui venaient de l'extérieur, parce que, pratiquement, nous n'avions que des professeurs femmes.
Oui.
Et seulement, malgré tout, et jeunes relativement, et nous avions des professeurs qui venaient de l'extérieur, qui n'étaient pas à Véronée. Et nous en avions un professeur, enfin, notre professeur de maths, qui était une personne assez ronde et dans son physique et dans ses paroles, et qui aimait bien les élèves, qui aimait les maths. Particulièrement, moi, je ne les aimais pas. Je ne les ai jamais aimés. Bon. Et alors, seulement, évidemment, là, c'est le seul professeur dont je garde quand même un souvenir mitigé, c'est que elle s'occupait bien de ceux qui comprenaient, surtout quand il s'agissait de géométrie. Bon, encore l'algèbre, ça pouvait passer, enfin les maths plus classiques, ça pouvait passer, mais la géométrie, ça n'allait pas. Et alors, quand quelques élèves ne comprenaient pas ou qu'elles n'avaient pas les réponses rapide à ses interrogations, elle disait, mais elle se campait sur son estrade, parce qu'elle avait quand même son estrade et son bureau qui dominaient les élèves, et les mains dans les poches, je revois toujours une certaine tenue qu'elle avait, une robe droite, verte, les mains dans les poches, et alors elle nous disait, mais vous êtes bouchés à l'aimerie. Elle avait un accent autre que l'accent avéronais. Voilà.
Christian, vous, alors c'est plutôt les années 50, hein, un petit peu plus tard.
La fin des années 40, puisqu'on est arrivé en 47, de suite, j'ai été à l'école primaire ou dans l'école Cambon.
Alors c'était rue de... ou pas?
C'était Lamberg.
L'école.
Rue de Lamberg.
Lamberg, oui.
Oui, alors c'est toujours pareil, on respecte bien les professeurs. Hein.
Pourquoi vous les respectiez? Parce que vos parents, ils vous disaient, il faut les respecter.
Non. C'était eux qui faisaient.
Non, c'était comme ça. Hein, c'était qu'il fallait les respecter, puis on respectait les professeurs. Hein.
Voilà,
ouais, c'était une habitude de l'époque.
C'était tacite, hein. La discipline, c'était, c'était tacite entre les élèves et les élèves devaient respecter le professeur, alors, et les professeurs, les élèves.
Alors, voilà. Solange, très bien. Du coup, petite question débat. Rapide, hein. On n'est pas là pour faire des débats. Comment expliquez-vous? Vous me dites que c'était tacite, que ça allait de soi. Pourquoi c'est plus le cas, d'après vous, avec votre expérience?
Je crois que c'est une sorte, le monde a évolué, pas seulement scolaire, c'est tout un ensemble. Et puis les classes étaient moins nombreuses, hein, je répète encore, quand on passe de 20 à 40, hein, c'est certain que même quand il y a 20 élèves dans une classe, un professeur peut supporter quelques petites incartades, tandis que quand il y en a 40, s'il y en a 30, 25 qui font les idiots, ça ne peut pas marcher.
Christian, Solange ou Georgette, est-ce que vous, par rapport alors, soit aux vos enfants, soit des petits-neveux, soit des gens plus jeunes autour de vous, vous avez le sentiment que, comme on dit parfois, l'école, ça s'est un petit peu délité depuis votre époque.
Je ne peux pas dire que non. Moi, j'ai Moi, j'en suis aux arrières petites.
Ouais.
On ne respecte plus.
Ça dépend aussi de la famille. Je sais pas, vous le disiez tout à l'heure aussi. Ouais. Quand même, quand on est élevé, déjà avec un minimum de discipline dans la famille, je crois qu'on a moins de mal à l'école à se plier. Moi, je vois mes neveux, mes petits-neveux, c'est la même atmosphère de famille que ça a été la mienne et ça n'a pas. Il n'y a pas de problème.
C'est pas partout. Moi, je voudrais quand même resituer les choses un petit peu de l'extérieur, comme je suis. L'école, c'est pas un vieux truc, hein. L'école publique, ça a 100
ans.
100 ans. Dans une société, c'est rien, 100 ans. C'est très court. C'est très court. Et puis, le deuxième point dont on peut peut-être réfléchir, c'est que maintenant, les enfants, les jeunes apprennent énormément de choses ailleurs qu'à l'école. Ils savent beaucoup plus de choses que les enseignants même. Qu'ils sachent s'en servir et organiser leurs connaissances, c'est pas certain. La somme de connaissances ne fait pas forcément l'intelligence. Mais les sources d'informations ont complètement explosé depuis notre enfance à nous. Donc, ça n'a rien à voir. Alors, la perte d'autorité, je dirais pas ça, mais je dirais que les sources d'informations sont telles que maintenant, allez, poussons le bouchon, il n'y a presque plus besoin d'école. Là, j'exagère, mais bon.
Enfin, on respectait les enseignants. On les respectait.
C'était les hussards noirs, hein. C'était les hussards noirs, c'était pas de la rigolade. Il y avait le curé et les hussards noirs dans les villages. Et puis sorti de ça...
Eh oui, Solange Verdu, vous, qu'est-ce que vous en pensez de l'école d'aujourd'hui?
J'en suis éloignée, parce que
je pense qu'elle est un peu à l'image de la société. Oui. Hein.
Peut-être, elle a été un petit peu plus permissive, parce que, j'en reviens à ce que disait mon homonyme, Solange, qu'il y avait quand même... dans notre époque d'avant-guerre ou de début de la guerre, une forme de respect vis-à-vis des professeurs. Et puis, il y a quand même eu dans les années 60, surtout, je pense que c'est de là que vient le problème, une forme de plus de laxisme, plus de tolérance entre guillemets envers le comportement des enfants, qui venait peut-être aussi du fait que dans les familles on était moins accroché à ce que les enfants soient respectueux ou écoutent ou
oui. Moi, selon Jérémy,
j'étais enseignante jusqu'en 84.
Ah ben oui, c'est vrai, alors vous avez vécu les deux côtés. C'est vrai,
j'ai jamais eu de problème de discipline
jusqu'en début des années 80,
même en enseignant l'éducation physique.
Ouais. Jamais vous avez rencontré.
Jamais fait punir d'élèves ou eu à faire intervenir.
Vous êtes un bon professeur parce que c'est quand même.
Intervenir, non.
Mais alors, comment vous, en tant qu'ancienne enseignante, vous expliquez que tous ces problèmes dont on parle de respect des professeurs actuellement, là, depuis une quinzaine d'années, 20 ans ou 30 ans?
Je sais pas l'expliquer. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Sur l'évolution des enfants, et je sais pas.
Anne, vous l'avez...
Oui, alors, on a le même métier, Solange et moi. On a 30 ans d'écart, mais on a quand même le même métier. Moi, je parlerai pas dans l'exercice de notre métier, qui était le mien et qui m'a beaucoup plu. Je parlerai pas d'autorité. Je crois que c'est une question de relation. Et quand il y avait des dépassements de relation, ben, on recadre la relation. Pas forcément pour punir. Moi, j'avais des moyens, bien sûr, pour donner mes règles, mes cadres. Et on savait très bien qu'avec moi, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Oui, elle est bête, cette prof, parce que, je me souviens très bien que je date que toi encore plus. En éducation physique, des fois, les filles, elles ont les règles. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Alors, quand elles arrivaient au cours, elles me faisaient des tas de minauderies pour me dire, mais madame, moi, aujourd'hui, je suis fatiguée, etc. Et je leur disais, mais attendez, il va falloir t'habituer parce que c'est pas une maladie. Donc, ça, et je la mettais un peu de côté pour arbitrer ou des choses comme ça. Mais c'est une question de relation, il n'y a pas de sanction. J'ai eu aussi, et ça c'est-à-dire aujourd'hui, toi aussi, des élèves d'origine variée. Il y avait 10%, on disait, qui venaient de loin, par exemple de l'Algérie ou de Pologne ou de Yougoslavie. Il y avait les enfants de la deuxième, troisième génération des mineurs de Casville qu'on avait. Bon, ceux-là, souvent, ils appréciaient l'école parce qu'ils avaient compris que c'était grâce à l'école qu'on allait rentrer vraiment dans la société française. Mais quand des petites arabes outrepassaient un petit peu, j'arrêtais toute la classe et je discutais. Et on discutait ferme de racisme, de paracisme, et de santé, et de façon de se comporter. Mais je veux dire, il n'y avait pas de discipline. J'allais pas les punir, mais je recadrais sec, surtout quand on parlait de racisme. Et là, je n'acceptais pas du tout qu'on ait une once de soupçon sur ce point-là avec moi. Il était hors de question de traiter les uns et les autres différemment. On traitait tout le monde comme ça et je recadrais directement. Mais ça aussi, c'était une question de recadrer, de relation. J'allais pas la punir parce qu'elle m'avait traité de raciste ou des trucs comme ça. Ça n'avait pas de sens. Mais c'est vrai que j'ai souvent recadré. Moi, je suis de nature recadreuse. Et... Ah oui, moi, je recadrais. Je laissais rien passer. C'est notre rôle. Hein.
Allez, moi, je vais recadrer un petit peu cette émission Mémoire d'Amberg en CFM avec l'association Les Embringues, quartier d'art et d'amitié. Donc, on parlait de l'école. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui est aussi d'actualité, hein, puisqu'on est en plein hiver et qu'aujourd'hui, il fait particulièrement froid. Alors, dans les années 2000 au 21e siècle, le froid, c'est plus trop un problème dans les appartements tant qu'on a de l'argent pour payer les factures. Mais dans les années 30, avec Solange, dans les années 40 avec notre deuxième Solange, ou dans les fin des années 40, dans les années 50, c'était peut-être pas pareil. Quels souvenirs vous avez d'hiver, alors, soit particulièrement rude, ou comment vous le viviez, Christian?
Ah ben, on avait une cuisinière, réchauffée au charbon, et puis allez.
Le poêle au milieu de la chambre.
Oui.
C'est-à-dire, puis... oui, Georgette, le poêle au milieu de la chambre?
Ah oui. Oui, il y avait un poêle. Oui, un poêle, et puis à la cuisine, on avait une cuisinière, au charbon.
C'est tout, hein, il n'y avait pas trop de chauffage.
Non, il n'y avait pas de chauffage central, là. Hein. Ça n'existait pas.
Quand il faisait particulièrement froid, des jours de janvier très très froid, qu'est-ce que vous.
Eh bien, on mettait une brique réfractaire, plié dans un chiffon, dans on se mettait lit, ça au fond des
lit.
Pieds.
Et
voilà. Oui, dans le lit. Et voilà. On se chauffait comme ça.
Je signale au passage, moi je suis parisienne, vous l'avez compris, que chez nous il y avait 5 pièces et il y avait un poêle pour 5 pièces. Et donc voilà. On avait plus froid à Paris que vous en campagne.
Et oui, il faisait froid.
Solange, comment c'était pour vous l'hiver, les années 30?
Le chauffage central, sans doute de bonheur, je pense, par rapport à...
Ah, vous étiez une privilégiée.
C'est bien,
oui.
Je ne sais pas à quel âge, mais j'aurai toujours des radiateurs dans les pièces, quoi. Je ne sais pas si les chambres, si on chauffait les chambres. D'accord. Parce que ça continue, moi j'ai horreur des chauffages dans la chambre. Alors on mettait, s'il faisait vraiment froid l'hiver, là, comme il disait tout à l'heure, on mettait une bouillotte, une brique chaude dans le lit, on chauffait le lit, mais... On respirait pas. Moi, j'aime pas respirer trop d'air chaud.
Alors, on rappelle que vous êtes tous.
Et on se portait très bien.
On rappelle que vous êtes tous, sauf Solange Verdu, des habitants de la rue de Lamberg où vous êtes né. Solange, c'est la rue de Bonald. Hein. Bon, la rue à côté. Pour rappeler, parce que vous nous parlez de vous, vous aviez le chauffage central quasiment Solange dans les années 30, alors que Christian, à la fin des années 40, il était encore avec sa brique dans son lit. Ça veut dire que dans cette rue, il y avait des gens.
C'est
vrai, oui.
Non, mais on avait quand même. Je vous ai dit, je ne sais pas si on avait des radiateurs dans les chambres. En tous les cas, on réglait. Les chambres. J'ai toujours eu un souvenir de chambres pas très chauffées. Mais de lits et de bonnes couvertures et des bouillottes, c'est d'aller au pied.
Ah oui, les bouillottes, bien sûr. Parce que la rue de Lamberg a cette particularité que vous nous avez déjà expliqué dans les émissions précédentes, c'est que c'est une rue qui mélange des populations très différentes. Vous étiez un peu dans les privilégiés, Solange.
Ah oui, hein, c'est vrai.
Le chauffage était bien.
Oui.
Christian, c'était plus
ça,
rude.
Je reconnais
ah oui, c'était plus rude. Oui. Même pour les écoles, on avait des poêles à charbon dans les écoles.
Ah ouais.
Et moi, la dernière année de mon certificat d'études, on était deux, on était un peu costauds. On était de service pour monter les seaux à chaque classe, de charbon. Oui. Et oui, on les nous avait désigné pour monter les seaux de charbon à chaque classe. Oui.
Ah oui. Ah ouais.
Et vous, Solange, chez vous, il y avait corvée de charbon ou vous étiez chauffage central comme l'autre Solange?
Ah non, il n'y avait pas de chauffage central. D'ailleurs, même quand dans les années 64, quand j'ai déménagé de la rue de Bonal, nous n'avions pas de chauffage central. Maintenant... Dans la cuisine, nous avions une grosse cuisinière qui donnait d'ailleurs de l'eau chaude. Il y avait une bouillotte sur le côté de la cuisinière. Alors là, la cuisinière chauffait au charbon de Decazeville ou d'ailleurs, dont notre fournisseur s'appelait Neuriga, qui était au fond de la rue de...
Non, il est passé autour d'une Neurigat.
Oui, c'était tout à fait au fond de la rue de Bonal, sur le tour de ville.
Ah,
là.
Voilà.
Et alors, dans les chambres, nous avions une cheminée dans laquelle on faisait brûler du coq.
Oui. C'est-à-dire
du coq, ben du charbon moulé.
Ah, oui, d'accord.
Coq, oui. Bon, mais ça n'empêche que quand même, évidemment, c'était une fourniture de charbon. Bon, c'est de charbon dont à laquelle on faisait attention. La cuisine était bien chauffée. On laissait les portes de communication ouvertes et on chauffait les chambres quand il faisait très très froid. Cela n'empêche que quand il faisait moins froid, alors au point de vue literie, évidemment, nous avions des couvertures à laine piquée. Et puis alors, des édredons en duvet.
Oui, voilà.
Alors, c'était très confortable, on était bien dedans. Monsieur Wiki a parlé des briques réfractaires. Je me souviens que quand il commençait à faire un peu froid et qu'on allumait la cuisinière dans la cuisine, on mettait ces fameuses briques réfractaires
dans le four.
Quand elles étaient bien chaudes, là, avant de se coucher, on les mettait dans le lit. Plus tard, c'est à la fin de la guerre qu'il y a eu des chauffe-lits. C'était un chauffage entre deux sphères de bois qui avaient une grosse lampe électrique. Et on chauffait avec ça. Bon, voilà. Ou alors après, il y a eu les couvertures chauffantes.
Alors l'hiver, c'est aussi peut-être pour vous des souvenirs d'amusement, parce que qui n'a pas joué dans la neige, joué à glisser ceci, cela.
Oh. Et boule de neige.
Vous étiez un petit peu, vous avez fait des batailles de boules de neige, Solange?
Ah oui, puis on était surtout sur le chemin de l'école. Il y avait des endroits où les garçons nous guettaient, cachaient derrière des coins de murs avec une réserve de boules de neige. Le temps qu'on passait, c'était le bombardement.
Oui, on se régalait.
Les filles,
les garçons, on se régalait de taper sur les filles. Des boules de neige aux filles.
Ah, donc vous, Christian, vous étiez dans le camp d'en face à guetter les filles.
C'est ça, ça
nous arrivait quand il y en avait. C'est-à-dire, il y avait plus de neige que maintenant à l'époque. Hein.
Ouais, vous avez des souvenirs de. Parce que moi, je suis Rodez depuis plus de 4 ans, moi, maintenant.
Ah oui, il y avait plus de neige.
J'ai pas encore vu, on m'a parlé de mettre neige, moi, j'ai pas encore vu.
Et elle durait plus longtemps, la neige, dans le temps.
Solange
Ça restait pendant l'hiver, pratiquement, on avait la neige.
Quels souvenirs vous avez d'hiver particulièrement marquants, ici à Rodez?
Oh, dans les années, je pense.
L'hiver particulièrement marquant a été l'hiver de 56, mais auparavant.
Mais même je pense qu'il y en a eu pendant les années de guerre, la 39-40, par là, justement, on avait beaucoup plus de mal à se procurer ce qu'il fallait, etc.
Oui, justement, j'allais y
venir. On a souffert.
Alors là.
Non, le ferme pas.
Je me souviens, justement, quand, en parlant des jours de grand froid, quand on ne pouvait pas chauffer suffisamment, eh bien, le matin, lorsqu'on se réveillait, il y avait quand même ce que l'on appelait
des fleurs.
Gentiment, des fleurs.
Des fleurs
aux fenêtres.
Sur les vitres.
Ah, oui. Parce que,
d'accord.
Les fenêtres de l'appartement étaient givrées. Sauf à la cuisine, parce que quand même, il restait davantage de chaleur. Maintenant, je me souviens aussi que ça devait être dans les années 39 ou 40. Un certain matin, il avait fortement neigé sur Rodez. Et je ne sais pas, il y avait peut-être 30 centimètres de neige.
D'accord.
Et j'allais à l'école Galli, évidemment, du bout de la rue de Bonal, puisque nous étions au 8 rue de Bonal. Je traverse la place de la Cité. Il y avait à l'époque le marchand de journaux, un kiosque à journaux.
Oui.
Et alors, je traverse la place, évidemment, en diagonale. Oh, et puis alors, j'ai eu de la neige jusqu'aux genoux. Et ça m'avait fait drôle. Mais j'ai continué mon chemin, je suis allée à l'école. À l'époque, nous avions des galoches.
Oui.
Des galoches en bois.
C'est quoi des galoches?
Des galoches, c'était des chaussures montantes.
Je les ai gardées, mes galoches.
Des semelles de bois et une tige en cuir.
C'était des chaussures en bois. Et alors, pour les filles, quand même, il y avait une petite coquetterie, c'est que nous en avions le bord supérieur, qui était avec une petite fourrure, une bordure de laine tricotée, ou enfin, il y avait un petit... Ah, si, mais moi, je me rappelle.
J'ai pas eu ça.
D'ailleurs, les dernières galoches que j'ai eues, il y avait eu un petit peu plus d'arrangement dans la mode. Elles étaient avec, au lieu d'être lacées, elles étaient avec des petites lanières et une boucle pour les fermer. Et maintenant, je me souviens aussi d'avoir été à Cardaillac. Alors, le quartier de Cardaillac n'était pas ce qu'il est maintenant, construit comme il est. C'était des prés dans lesquels, évidemment, les vaches broutaient l'été ou à l'intersaison.
Oui,
mais nous allions faire de la luge, presque jusqu'au bord de l'Aveyron. Et nous étions très contents. Ça se passait le jeudi.
Ah, le jour de... Voilà, il n'y avait pas école.
Oui, il n'y avait pas école. Et puis, moi, je n'ai pas fréquenté le patronage non plus, puisque je n'allais pas au patronage. On avait quelques luges et on était heureux. Quand au boule de neige, on en a bien fait quelques-unes, mais... Entre mes deux lieux de classe, en haut de la rue de Bonal et vers le bas de la rue de Bonal, nous ne rencontrions pas beaucoup de garçons, puisque là c'était justement des écoles de filles, surtout. Ouais. Voilà.
Christian, quel souvenir vous avez d'un hiver particulièrement, soit neigeux, soit froid?
Ah, si, 56, c'est vrai que...
Pourquoi 56?
Parce que moi, j'ai le grand-père qui était du côté d'Olemps, là, que ça s'appelle les Balades, il coupait le bois sur l'Aveyron, tranquille, parce qu'il y avait une épaisseur de glace énorme.
Ah oui,
et les troncs d'arbres tombaient sur l'Aveyron, il coupait le bois sur l'Aveyron, tellement que c'était joli. C'est là que je me suis rappelé de ça, que 56, c'était vraiment une année de froid.
Moi, je dirais 40, mais des hivers pendant la guerre, là, oui. Très froid et justement d'autant plus difficile à supporter qu'on manquait de beaucoup de choses.
Alors, 56, je me trompe peut-être d'année, mais moi, ça me fait penser aux années où justement l'abbé Pierre est apparu pour ce mouvement, justement, pour aider à avoir des logements à ceux qui dormaient dehors dans un froid pas possible.
Oui.
Pour vous, alors Christian, je vois qu'il s'en souvient très très bien. Solange, Georgette, pour vous aussi, c'est un souvenir particulier d'un hiver particulier?
Auparavant, il y avait quand même eu l'hiver 56. D'ailleurs, c'est en 54 que l'abbé Pierre avait déjà commencé à battre le pavé pour obtenir des abris pour les personnes nécessiteuses, enfin pour les gens qui souffrent du froid. Mais 56 a été dur aussi. Et je me souviens de l'hiver où tout a gelé. Toutes les canalisations avaient gelé en haut de Rodez, enfin, même dans d'autres quartiers. Et nous, au 8 rue de Bonal, nous avions eu la chance parce que quand je sortais du travail, à 7 heures du soir, il faisait nuit depuis un bon moment, quand je suis arrivé chez nous à l'appartement, j'étais transi. Et comme à l'époque je portais des lunettes, j'avais des petits glaçons qui s'étaient formés au fond de... des montures de mes lunettes, tellement le froid était... Et alors, j'ai dit à mon père, j'ai dit, tu sais, papa, il fait froid. Bon, ils s'en sont rendus compte, mes parents, bien sûr. Mais nous devrions fermer les compteurs d'eau parce que ça risque de geler cette année, cette nuit. Effectivement, c'était dans notre cave personnelle, puisque nous étions trois locataires dans l'immeuble. C'était dans notre cave personnelle que se situaient les compteurs d'eau. Voilà, c'était comme ça. Alors, nous avons averti les autres personnes de la maison d'avoir à tirer de l'eau pour leurs besoins du soir et puis du lendemain matin. Et on a vidangé les canalisations de la maison. Et nous avons eu la chance de ne pas souffrir de gel des canalisations, parce que mon père, donc, il était à la retraite à ce moment-là, allait ouvrir les compteurs, chacun puisait de l'eau, dans la journée, on puisait de l'eau, et puis bon, évidemment, l'eau s'évacuait normalement par les éviers ou par les toilettes, et le soir, pendant, parce que ça a duré quand même, je crois, un mois, si je me souviens bien, cet hiver.
Très bien et alors,
au bout de la rue, au bout de l'impasse Ladé, et comme il y avait des fontaines ailleurs, au bout de l'impasse Ladé, il y avait de l'eau, mais tous les gens allaient avec des brocs, avec des seaux, chercher de l'eau pour leur approvisionnement. Et il faut dire aussi que le sol était gelé et qu'il y avait des dérapages.
Oui.
Ça, c'est très net dans mon esprit, je m'en souviens très bien. Et malheureusement, pour les autres, dans le quartier, nous faisions office de privilégiés parce que nous n'avons jamais manqué d'eau. Cette corvée d'eau, qui était presque dangereuse quelquefois, nous ne l'avons pas connue au 8 rue de Bonal.
Allez, Un autre sujet qu'on va aborder dans cette émission, parce que le mois de janvier, bon, c'est le mois de la nouvelle année, on en a parlé. C'est le mois, un mois de froid, d'hiver, on en a parlé aussi. Oui, Georgette.
Les avalanches, vous vous souvenez des avalanches?
Ah, des toits.
Qui glissait du toit, du toit. Vous preniez une avalanche, mais vous savez, il y avait ces grilles par avalanche. Oui, il y avait des grilles, mais toutes. Oui. Alors, des fois, ça passait par-dessus les grilles. Vous preniez de ces avalanches, des fois, ça entraînait des tuiles au passage, des ardoises, mais c'était dangereux. Ouais. On se prenne de ces avalanches.
Ah oui. Ah oui. Dans les petites rues.
C'était dangereux ces avalanches.
Oh. Oh, bah, apparemment, tout le monde est d'accord. Tout le monde a pris un peu de neige sur la tête là par
exemple. Plus que la neige, on se prenait une tuile avec. Et après, il restait des chandelles. Ça faisait des stalactites qui est le long des toitures. Il y avait des stalons. Vous preniez des fois une stalactite. C'était
normalement,
dangereux.
Il y avait des grilles au front des toits.
Mais
pour arrêter les avalanches.
Ils en ont mis plus tard, justement, à cause des
avalanches. Il n'y en avait pas tous à l'époque. Il n'y en avait pas tous.
Des grilles grillagées.
Et puis les toits étaient en pente. Et la fonte.
La fonte des neiges.
Oui, la fonte des neiges. Tout ça, ça a duré tout le mois de février. Puis au mois de mars, le printemps est revenu, parce qu'il y avait eu un hiver très froid, mais insensiblement, le printemps revenait. Et il y a eu la fonte des neiges. Alors, il faut dire que les rues étaient bien entretenues, mais pas comme elles le sont maintenant. Malheureusement, tout le monde à l'époque n'était pas tellement bien chaussé encore. Bien que la guerre soit finie, on ne trouvait pas toujours des chaussures confortables comme on les a maintenant. Les après-ski n'existaient pas.
Ouais, voilà, bien sûr, j'imagine.
C'était les galoches. On s'isolait du sol avec les semelles de bois, même avant que ce soit la mode des chaussures à semelles de bois. Mais les galoches, même bien avant la guerre, moi, toutes...
Mais les galoches, oui.
À l'école, j'allais à l'école l'hiver et les galoches.
Allez, un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde dans cette émission, c'est les commerces et les commerçants. Parce que là, au mois de janvier, c'est aussi synonyme de soldes. Là, aux années 2015, on est en pleine période de soldes. Bon, il n'y avait peut-être pas les soldes, vous allez me le dire d'ailleurs, à votre époque.
Non.
Mais ce qui est sûr, c'est que la rue Lamberg et la rue de Bonald étaient beaucoup plus commerçantes qu'aujourd'hui, non? Quel souvenir vous avez des différents commerçants qui ponctuaient ces la rue de Lamberg et la rue de Bonald, par exemple? Lesquels vous viennent?
Cavalier, là, au fond de la rue de Lamberg.
C'était quoi?
Madame
Cavalier.
L'épicière. Oui. Qu'est-ce que vous appelez épicerie, vous?
Ah ben, c'était elle vendait des légumes, et alors on trouvait bizarre qu'elle pesait les salades. Et avant de les peser, elle les mouillait.
Ah ben oui. Voilà.
Alors... Et en face, il y avait Madame Laborde. Tu te rappelles, Georgette? En face. La petite épicerie, d'ailleurs, il y a encore une petite devanture en face. Et Madame Laborde, qui vendait aussi des légumes. Et puis en dessus, un peu plus haut, après l'impasse Vezet, il y avait Maria, qu'on appelait Maria.
Oui, voilà.
Alors là, elle vendait des bonbons, elle vendait des bricoles.
Et
elle faisait
une épicerie quand même.
Elle faisait les casse-croûtes à 9h et puis les 4h le soir.
D'accord.
Et dans son magasin, elle avait une trappe qui se levait et elle descendait par des escaliers à la cave pour aller chercher le vin, pour alimenter les casse-croûtes.
Et elle vendait des caramels. Elle vendait des caramels à un sou. Alors quand ces dames, des fois, elles perdaient un petit sou, j'allais jeter un caramel chez Maria. Alors on dépliait le caramel et il y avait marqué gagné. Alors c'est pas pour un sou, des fois on avait trois caramels parce qu'on dépliait, il y avait marqué gagné.
Il y en avait un autre.
Hein. C'était des caramels, des straplats. C'était vraiment des caramels. Hein. On gagnait souvent.
C'est vrai que Maria, ça faisait de l'animation.
Chez Maria, c'était, oui.
Il y avait des ouvriers qui venaient casser la croûte, là.
Et c'est-à-dire que vos parents...
Il y avait de la vie.
Et voilà, c'est-à-dire que vos parents, ou vous-même un peu plus tard, quand vous alliez faire les courses de la semaine, c'était dans la rue. Vous n'alliez pas faire vos courses en dehors.
Il y avait le marché sur la place de la cité.
Solange.
Il devait y avoir toujours le marché.
Ouais, Solange, quel souvenir
vous
avez?
Non, mais quand même, il y avait Maria dont il parle, c'était une petite épicerie qui n'avait pas de tout. Je sais que pour nous, l'épicerie, c'était dans la rue du Toit qu'on allait. Mais on allait chez Maria quand, à la dernière minute, on avait 10 mètres, 30 mètres à faire pour aller chercher ce qui nous manquait. D'un seul coup, on s'apercevait qu'il y avait plus de sel, on allait chercher un paquet de sel chez Maria. C'était pas notre épicerie principale.
Là où elle gagnait le plus, c'était les casse-croûtes.
Ah oui, mais ça,
Madame Cavalier.
J'ai jamais fréquenté.